Good Evening Business, l'invité.
Il est 18h15 sur BFM Business, c'est donc le nouveau président délégué du Conseil d'analyse économique, Camille Landais, qui est avec nous. Bonsoir Monsieur Landais.
Bonsoir. Bonsoir.
Merci beaucoup d'être avec nous ce soir sur BFM Business. Alors le Conseil d'analyse économique, j'ose pas dire que le grand public connaît, mais pas loin, parce que vous alimentez régulièrement le débat public avec des notes, avec des préconisations sur des sujets économiques assez vastes. Comment est-ce qu'on qualifie le Conseil d'analyse économique? Groupe de réflexion pluraliste, j'ai vu ça, économiste de tous bords finalement, si on se résume.
Oui, c'est-à-dire qu'on est une instance qui a vocation à aider à la prise de décision publique, à éclairer le débat politique et public, et qui utilise pour ça l'expertise académique.
Ouais.
Voilà, ce qui nous caractérise, c'est à la fois notre indépendance.
Oui. On est d'être rattaché à Matignon. Hein,
nous sommes rattachés à Matignon au sens institutionnel, mais nous avons vocation à ce que l'ensemble de nos travaux soient complètement publics et donc à disposition du débat public.
Et alors, dans la mesure où vous prenez les rênes de ce Conseil d'analyse économique indépendant, je voulais vous demander ce soir, nous voulions vous demander, alors c'est pas un grand oral, on n'a pas cette présomption, mais de nous demander. Non, de nous dire en quelques minutes comment est-ce que vous jugez la situation économique de la France aujourd'hui, vous qui prenez les rênes de ce Conseil d'analyse économique. Comment va la France pour vous économiquement?
Comment va la France? C'est un secret pour personne. Il y a un certain nombre de grands sujets d'actualité économique qui font que la situation nécessite un certain nombre de décisions, à la fois sur comment gérer l'inflation, comment protéger les ménages contre le choc des prix énergétiques. Donc, clairement, on est dans une situation qui est chaude. Et de ce point de vue-là, c'est vrai que c'est intéressant pour nous, les économistes, de pouvoir contribuer, de mettre au service des décisions à prendre notre expertise académique.
Si on prend sujet par sujet, on va balayer beaucoup de sujets. La situation des finances publiques et de l'endettement de la France aujourd'hui. Est-ce que vous nous croyez à l'abri d'une attaque des marchés, finalement? Je pousse un petit peu le...
Alors, une fois de plus, je pense qu'il y a énormément de fixation sur le niveau de dette publique, ce genre de choses. Je crois que c'est très important de se rappeler ce qui vient de se passer en Grande-Bretagne. La Grande-Bretagne a un niveau de dette publique qui est beaucoup moins élevé que celui d'Italie, par exemple.
Oui.
Néanmoins, il suffit de démontrer rapidement une incapacité à prendre le sujet sérieusement pour que, effectivement, il y a une petite tempête. Donc, ce n'est pas vraiment une question du niveau de la dette publique ou en dessous de nos finances publiques.
C'est un élément déclencheur, peut-être.
Non, mais aussi avoir très clairement une stratégie, un ensemble de décisions politiques qui sont très claires vis-à-vis de ce qu'on veut faire avec l'argent public. Une fois plus, s'endetter pour des dépenses qui sont absolument productives à long terme pour la transition écologique, ça, c'est quelque chose que les marchés peuvent complètement comprendre. En revanche, dire comme Kwasi Kwarteng, on va faire plus 4 points de PIB de déficit pour financer des baisses d'impôts pour les entreprises et les ménages, alors que ce n'est pas le moment de le faire. Oui, là, effectivement, ça pose une vraie question.
Vous voyez une analogie entre ce qui s'est fait en Grande-Bretagne jusqu'à encore quelques semaines et ce qui se fait en France aujourd'hui à travers la continuation, entre guillemets, du quoi qu'il en coûte, notamment.
Alors, pas du tout. Justement, je crois que ce qui était très, très, très différent dans le choc qui était... proposé par le mini-budget de Kwasi Kwarteng, c'était cette idée que on allait faire un choc d'offres, libérer les énergies en baissant les impôts massivement pour les entreprises et les ménages. C'est pas du tout ce qu'on est en train de faire en France. Ce qu'on est en train de faire en France, c'est de faire en sorte que on protège efficacement l'ensemble des ménages contre la hausse des prix de l'énergie qui est liée à un choc, qui est un choc complètement exogène auquel on n'était pas forcément préparé. Alors, je dis pas qu'il y a pas des choses à faire pour améliorer la réponse qu'on donne, mais en tous les cas, l'objectif premier est complètement différent de ce que le mini-budget de Kwasi Kwarteng avait en tête.
Mais quand le FMI, cette semaine, tire la sonnette d'alarme en disant « attention, la France sort des clous justement sur la question du budget parce qu'elle veut trop protéger justement sa population, notamment avec le bouclier tarifaire », qu'est-ce que vous répondez à ça ?
Ce que je réponds à ça, c'est que oui, effectivement, je crois que la plupart des gens dans les cabinets au gouvernement sont bien conscients qu'il faut faire évoluer le bouclier tarifaire. C'est quoi les deux principaux problèmes avec le bouclier tarifaire? Alors, le bouclier tarifaire, il nous a bien servi. Hein. Je veux dire, il a été extrêmement rapide à mettre en place et il a bien protégé les ménages.
Bien sûr.
Mais il a deux problèmes principaux. C'est que il n'incite pas à diminuer la consommation d'énergie et la consommation de gaz. Or, c'est le plus gros problème aujourd'hui, c'est qu'il faut absolument diminuer notre consommation d'énergie, en particulier notre consommation de gaz, parce que c'est la consommation du gaz qui fait exploser les prix de l'électricité et les prix de l'énergie. Donc le bouclier tarifaire n'est pas bien dessiné pour faire ça, et d'une certaine manière risque de nous enfermer dans une situation où on ne réduit pas assez notre demande d'énergie, et donc on maintient des prix de l'énergie beaucoup trop élevés. La deuxième chose, c'est qu'il n'est pas nécessairement très ciblé non plus, et il n'est pas clair qu'on ait besoin de protéger absolument tous les ménages de la même manière contre la hausse.
Mais alors justement, quelles seraient les mesures d'après le SAE et d'après vous qui pourraient encourager justement les consommateurs pour réduire leur consommation pendant notamment les périodes de stress?
Alors, il y a effectivement deux gros enjeux. Il y a l'enjeu de la protection des ménages et il y a l'enjeu de comment on gère la demande des ménages. Sur l'enjeu de la protection, effectivement, je pense qu'il y a un certain nombre de pistes. Elles sont assez clairement dans le débat public aujourd'hui, de faire évoluer le bouclier tarifaire vers un système un peu plus à l'allemande. Quel est le bénéfice du système à l'allemande? C'est qu'au lieu de dire « Ah, bah, je limite systématiquement l'évolution du prix de l'énergie », c'est de dire « Non, je continue à vous faire payer le prix de l'énergie au prix marginal, c'est-à-dire le prix que ça coûte aujourd'hui, et il est très cher, mais en revanche, je vous protège contre l'effet que ça a sur vos finances de votre ménage. Comment je le fais? Ben, je le fais en disant qu'il y a une partie, disons, donc en Allemagne, ils disent qu'il y a 80% par exemple de votre consommation d'énergie, que je protège contre l'évolution du prix, c'est-à-dire que je vous reverse la différence entre le prix aujourd'hui et le prix de l'année dernière sur 80% de votre consommation d'énergie de l'année dernière. Donc, en gros, ça correspond à, finalement, à vous faire absorber assez bien le choc de prix sur 80%. Mais ce que je fais, c'est qu'en revanche, vous allez payer votre énergie à son vrai coût. Donc, d'une certaine manière, dès que vous commencez à consommer de l'énergie, vous êtes conscient que cette énergie est très chère. Et ça vous incite à diminuer votre consommation. Mais quand vous le faites, vous ne perdez pas le bénéfice du transfert qui vous est fait. Et c'est ça l'avantage de ce système-là.
Deux minutes, Camille Lordet. Est-ce qu'on va vous entendre sur les grandes réformes à mener dans les prochaines années en France, dans les prochains mois, sur les retraites? Mais on va vous entendre surtout. Sur les retraites, on va vous entendre ou pas là-dessus? Est-ce que vous allez vous mener du débat?
Non, mais évidemment, je crois que le CAE peut contribuer utilement à l'ensemble des débats qui se joue sur ces questions-là. Personnellement, je crois que ce qui est assez intéressant, c'est que le débat n'est vraiment pas tranché aujourd'hui. Et donc, il y a beaucoup de place pour que l'expertise, en particulier l'expertise académique, puisse éclairer ce qui se passe sur les effets à attendre de différents types de réformes qui sont aujourd'hui dans les cartons. Nous, on a été relativement clairs au CAE et dans l'ensemble de la communauté académique pour dire que faire la réforme intégralement en termes de augmenter l'âge d'ouverture des droits n'est pas forcément la meilleure manière de maximiser à la fois la partie recette fiscale, la partie augmentation du taux d'emploi des seniors.
C'est pas une fin en soi, c'est ça que vous nous dites finalement, d'augmenter l'âge des
seniors. Ah non, mais c'est-à-dire que ce qu'on a envie, c'est que effectivement tout le monde participe plus au marché du travail en tant que senior, et on a envie évidemment que cette réforme puisse nous rapporter des recettes fiscales pour gérer effectivement, il y a un déficit public à attendre du système de retraite, et on veut s'assurer contre ça. Maintenant, il y a plusieurs manières de le faire. On peut forcer les gens à ne pas avoir droit de liquider leur retraite avant un certain âge, mais on peut aussi changer d'autres paramètres du système. Et il y a, à mon avis, un système optimal qui panache en fait l'ensemble de ces paramètres.
Audrey. Alors, dernière question, puisqu'il ne reste plus qu'une minute. J'ai vu passer une note du CAE que j'ai trouvée très intéressante sur la perte de compétitivité de la France sur ces 20 dernières années, notamment par rapport à l'Allemagne et par rapport aux États-Unis. Qu'est-ce qu'il faut faire pour inverser la tendance?
Alors, si vous avez bien lu la note insiste en particulier
sur les mathématiques.
Sur les mathématiques.
Ah, je l'ai lu.
Oui, et les mathématiques, c'est vrai, il y a vraiment quelque chose à faire. On va être honnête aussi, la note ne prétend pas dire aujourd'hui quelles sont l'ensemble des actions qui pourraient maximiser, si vous voulez, les compétences en mathématiques. En revanche, elle tire la sonnette d'alarme, et ça, je pense que c'était vraiment important de le faire. On a quand même des exemples de certaines interventions qui pourraient être prise parce qu'il y a d'autres pays qui ont été confrontés.
Est-ce que vous avez été entendu par le gouvernement justement?
Alors,
sur ce sujet,
non seulement on a été entendu, mais je pense qu'il y a aussi une appétence du point de vue du gouvernement à continuer le dialogue pour réfléchir justement à la définition précise de ces interventions pour répondre aux problèmes.
À suivre. Donc.
Que de chantier. Vous dites on vous entendra sur tout, mais on vous attend sur tous ces sujets absolument cruciaux dans les prochaines années. Merci beaucoup. Merci. Camille Lordet en tout cas. Merci avec de passer plaisir. Nous voir. Le nouveau président délégué du Conseil d'analyse économique avec nous ce soir sur BFM Business. Merci infiniment, à très vite, avec plaisir.